presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones son esos hijos de puta de burgueses.
Les Sans Culottes 2017, un événement anti-autoritaire, anti-capitaliste, athée et solidaire. Pour sortir de l'impasse et de l'ornière, refuse les injonctions mercantiles. Refuse la domination capitaliste, quitte le racket et le chantage au cadeau, rends-toi pauvre et heureuse. Info en décembre sur www.libradio.org et www.lacomète.ch.
Voilà, Igor, t'avais un commentaire à faire sur ce jingle? J'ai vu que tu clignais de l'œil, celui qu'il te reste. Alors, donc oui, voilà, c'était l'opinion que se faisait Juan García Oliver de la Columna Ascaso, en fait, Padoruti, pendant la guerre d'Espagne, sur les bourgeois. On pourrait citer également, bien entendu, Jacques Brel, hein, qui avait une opinion bien tranchée sur les bourgeois, et que l'on salue, tous les deux, Juan García et Jacques, nos camarades, voilà. Jean-Pierre Balmer, bienvenue à toi. Nous sommes évidemment ravis de t'accueillir ici à Libre Radio. Toi qui es un des membres fondateurs des Bains des Paquis, où nous siégeons aujourd'hui au milieu d'une foule bigarrée. Nous le disions tout à l'heure au moment de la présentation de cette émission, une foule issue de toutes les classes sociales. Et c'est ça qui nous plaît particulièrement dans cet îlot d'utopie concrète dans Genève qui dure depuis maintenant 30 ans et des poussières. Avec cette déambulation dans un apaisement lassif de toutes ces personnes qui, évidemment, vont bronzer, vont se baigner. Il y a plein de choses qui se passent au Bain des Paquis. On y bronze, on y mange, on y boit. Ce soir, on y voit un film. Il y a un mur de grimpe dans l'eau. Il y a plein d'animations. Tout ça, c'est, je ne sais jamais prononcer, l'OBP, le nom de l'association des usagers des Bains des Paquis. Mais revenons-en à la genèse des Bains des Paquis qui donc existe maintenant depuis 30 ans et quelques jours. Ça veut dire que depuis 30 ans, ça existe. Donc, le projet vous habitait dans vos têtes de jeunes utopistes de l'époque, bien avant qu'il n'existe, Jean-Pierre.
Oui. Oui, c'est. Je pense qu'à l'époque, on ne parlait pas d'utopie. Mais c'est quelque chose qui était, j'imagine, beaucoup plus au profond de nous. Je pense que l'histoire, elle commence probablement dans les années 50, 55 en réalité, parce que à cette époque, les quartiers, c'était des quartiers très populaires, c'était des milliers d'ouvriers qui travaillaient à Sécheron, au Charmy, etc. Évidemment, les appartements de l'époque, ils étaient pas très bien agencés, pas très bien équipés au niveau sanitaire. Il y avait beaucoup d'appartements qui n'avaient pas de sanitaire. Et donc, nos parents qui faisaient ce qu'on appelait les 3x8, hein, c'était ces rythmes complètement hallucinants de travail, quand ils quittaient leur lieu de travail sombre, ça puait l'huile, etc., à un moment donné, leur moment de lumière dans la journée ou le matin pour ceux qui travaillaient la nuit, c'était le reposoir, les Bains des Paquis. C'était le moment de bien-être, de bien-être, pouvoir se baigner. Reposoir Bains des Paquis, alors il y avait presque deux classes différentes parce que les Bains des Paquis, on payait quand même l'entrée, 50 centimes ou 1 franc, je ne me souviens plus à l'époque, pour les adultes, alors que le reposoir était gratuit. Et évidemment, nos pères nous amenaient ici, on avait 2, 3, 4 ans. Donc on a vécu quelque part nos premiers moments de bien-être aussi dans cette ville, ici. Et par la force des choses, on a continué, on a fait notre adolescence, notre jeunesse dans ce lieu. Tout était beau, etc. Jusqu'au jour où on a appris qu'il y avait un projet de démolition-reconstruction. On l'a appris un petit peu par hasard parce que c'était très discret. Il y a eu ce qu'on appelle une demande d'autorisation préalable. Je crois qu'elle n'avait même pas été publiée dans les journaux. Alors théoriquement, c'est une obligation. Et c'est une voisine, parce qu'on avait toute une équipe, on habitait à la rue de Fribourg, c'était une équipe super sympa et on s'entendait bien, on discutait, on venait au bain, c'était un autre lieu. Et quand on a appris ça, on était un petit peu inquiet, on a essayé de se renseigner, ça, pas grand-chose. C'était, ouais, c'était très bizarre comme attitude. Puis ce côté où il n'y avait pas d'information, ce côté sans information nous a un peu titillé. Alors c'est clair, on était quoi, un peu après les années 68 quand même, on était encore marqué par cette période. On s'est interrogé et à un moment donné, on a compris que c'était un projet qui laissait la part belle quelque part à un très grand restaurant. On a entendu dire que c'était quelque chose qui était un peu organisé avec les grands hôtels du quai, parce que voilà, cette chose là-bas en face, c'était pas tout à fait leur catégorie. C'était le début d'une gentrification hein, sur Genève. Ça commençait. Voilà. Les Paquis, c'était encore un super quartier, hyper calme, hyper sain. Il n'y avait pas ce qu'on voit aujourd'hui, mais il y avait quand même ce quai qui était un petit peu un autre îlot qu'on traversait pour venir ici. Et donc c'est à partir de là qu'on a commencé à fouiller, regarder, chercher, ce que notre démocratie nous permet, c'est-à-dire d'aller se renseigner auprès des autorités, d'avoir accès à des dossiers sans être un professionnel. Donc voilà, ça c'était le tout début et ça devait remonter dans le 83-84, j'imagine, à peu près, de mémoire.
Hein. Ok. Mais qui étiez-vous à ce moment-là qui faisait partie de cette équipée sauvage qui allait à l'assaut du bain des Paquis? C'était une bande d'amis ou à un moment donné, vous avez quand même lancé une sorte d'appel en disant « Rejoignez-nous, on va faire ce truc ensemble ».
Alors, la question, ouais, elle est intéressante. Qui étions-nous? Ben, en fait, c'était une allée assez particulière. Il y avait des tas de gens. On vivait socialement très proches les uns des autres. On se gardait les gamins, on montait les commissions pour les vieux qui habitaient plus haut, etc. C'était encore ces anciens immeubles sans ascenseur où il y avait un contact dans l'escalier. Le contact dans l'escalier, c'était aussi un contact dans la rue, dans le bistrot, etc. etc. Et finalement, cette association, elle est née par deux, trois personnes qui habitaient la rue de Fribourg, particulièrement au 11 rue de Fribourg. Mmh. Et un soir, c'est dans notre cuisine, quand on avait tous les papiers sous les yeux, qu'on s'est dit, il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Et puis, comme on avait un peu milité dans deux, trois trucs les uns les autres, et de milieux très différents, faut dire, on était, il y avait une personne, Françoise, qui était dans le journalisme. Automatiquement, c'était des accès sur un côté. Il y avait Raymond qui travaillait dans le social, donc il avait une approche très humaine des choses. Son épouse, Gigi, qui travaillait dans un autre département, mais qui avait accès à d'autres types d'informations. Et puis, en somme, c'est cette pluriculture des choses qui fait qu'on a toujours eu des discussions très ouvertes et qui nous ont peut-être permis d'inventer et créer certaines choses. Et c'est là que tout d'un coup, l'idée est dit, oui, je crois que la meilleure des choses, c'est une association, c'est reconnu quelque part, donc, et ça nous permet, l'association nous permet d'avoir accès à certaines choses, de faire certaines demandes, peut-être le nom m'échappe maintenant.
Une demande de subvention?
Tout simplement une pétition, voilà, une pétition pour qu'elle soit reconnue, etc., etc. Et puis, c'est quand on a vu, pendant qu'on réfléchit, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui a duré un an, deux ans, qu'on se mette d'accord, qu'on regarde, qu'on essaie de comprendre ce qui se passait, de mettre en place une stratégie, etc., oui. S'il se passait quelque chose, parce qu'on ne savait toujours rien. Et c'est là qu'on est arrivé l'autorisation, la vraie, celle qui proposait un projet, qui a été publié, etc. Et à partir de là, c'est le moment où la création d'une association prenait tout son sens, parce que pour pouvoir faire opposition, on ne peut pas le faire en titre. Donc, bien sûr. Voilà, l'association. Et dans notre cuisine de la rue de Fribourg est née cette association. C'est on génial. Était trois, quatre. Quatre, on était au départ. Il y avait donc Raymond, Gigi, moi-même et le regretté Briquet, Henri Briquet. Qui travaillait à la librairie Rousseau, pour ceux qui s'en souviennent, la librairie rouge, comme on l'appelait.
Exact.
Comme il avait quelques accointances avec la comptabilité, il a dit, moi, je fais le secrétaire comptable trésorier, puisqu'il en fallait un dans l'association. Et voilà, c'est parti comme ça.
Qu'est-ce que ça te fait maintenant de dire 30 ans après, non seulement ça existe encore, mais c'est carrément, il y a un essor que l'on constate avec une population qui est tout le temps là, tout le temps présente.
Bon, c'est évidemment une satisfaction énorme, surtout quand on voit ce que Genève est devenue aujourd'hui. Moi-même, il y a certaines rues, je passe dans certaines rues, je me sens étranger. Je veux dire, j'ai l'impression que je n'ai rien à faire ici. Les Paquis, c'est devenu quelque chose d'assez curieux avec les dealers et tout. C'est devenu dangereux alors que c'était un quartier hyper sûr avant, même avec tout ce qui s'y passait déjà à l'époque. Mais c'était sain quelque part. Là aujourd'hui, c'est devenu quand même beaucoup plus dur, plus compliqué, etc. Pour nous, ça a été une galère. C'était une grosse galère parce que évidemment, on bossait tous dans nos lieux particuliers et de monter une association et puis d'aller à l'encontre d'un projet où là. En gros, la ville et l'État étaient partenaires, surtout la ville qui dirigeait ça, c'est pas un privé. Donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus complexe. Et évidemment, on y a passé des soirs, et des week-ends, et des choses comme ça. Et très vite, on s'est senti soutenu. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, tout d'un coup, ont partagé avec nous ce moment de... ce moment où on s'est rappelé notre jeunesse, c'est là qu'on avait commencé à nager, c'est là qu'on a connu nos premières copines, etc., etc. Avec nos parents, le souvenir de nos parents, tout ça. Et on s'est trouvé tout d'un coup, pas seul à le penser comme ça, mais des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui tout d'un coup nous ont soutenus. Alors bon, on a mis en route l'histoire, le comité s'est un peu élargi, et puis on était, bon, évidemment, de galère en galère, de déception en déception, parce que, grosso modo, tout le politique était contre nous. Moi-même, qui travaillais dans un département de l'État, on m'a demandé de quitter le département, parce que, voilà, je ne pouvais pas m'exprimer publiquement sur certaines choses qui étaient liées à des choses de la ville ou de l'État. On a vécu des grosses, grosses galères. Mais je ne sais pas... Il y a eu ce sentiment probablement lié à notre jeunesse, à nos parents, à nos amis, qui a été tellement fort qu'on ne s'est jamais préoccupé de ce genre de problème. Il y en a qui ont quitté leur boulot pour reprendre, par exemple, la buvette. Il y en a qui ont aménagé leur temps de travail pour avoir plus de temps pour s'occuper de ça, etc. Ça. Puis ce soutien qui nous a tellement... Mais c'est une dynamique extraordinaire. Et aujourd'hui, alors je dirais pour répondre, je me rends compte que 10 ans d'un boulot complètement faramineux, il y a un résultat, il y a des milliers de gens heureux, il y a des milliers de gens qui apprécient ce lieu, c'est énorme, ouais, c'est énorme.
À quel moment, après je voulais venir un peu sur des questions un petit peu triviales, mais qui en fait sont extrêmement importantes, la manière dont vous avez organisé les activités, comment est-ce qu'elles se sont toutes implantées d'un coup, ou est-ce qu'il a fallu grappiller peu à peu, d'abord la buvette, ensuite plutôt un autre espace que l'on aménage d'une certaine manière. Je voulais revenir également sur sur la question de la mixité, si tu voulais en parler un peu.
Ouais.
Mais avant ça, ce que je me demandais, c'est à quel moment est-ce que toi, tu t'es dit, là, on est bon, la durabilité, la viabilité de ce projet, elle est assurée. Y a-t-il eu un moment clé où tu t'es dit, bon, malgré les adjuvants, malgré les écueils, grâce aux adjuvants et malgré les écueils, on peut dire que maintenant, l'affaire est faite, on y va.
Je crois que c'est la conjonction de deux choses. Alors évidemment, on avait fait opposition au crédit, et c'est parti, donc référendum, votation, etc. Et un résultat populaire fulgurant, je crois que 75% des gens ont soutenu notre cause. Ce qui est énorme dans le sens que, je crois, sur les sept partis politiques à l'époque présents, 5 étaient fermement opposés à ça. Donc comment un petit groupe, une petite association peut faire face aux 5 plus gros partis de Genève avec une sorte de coalition entre l'extrême gauche et l'extrême droite, puisque autant le Parti du Travail que les libéraux, que les radicaux se sont opposés à ce genre de choses. Ce qui pour nous était totalement incompréhensible. Bon, on n'était pas non plus tombé tout à fait la dernière pluie, on connaissait un petit peu certaines choses. On a fait ce qui se pratique aujourd'hui très couramment, c'est qu'on a créé des autres associations, des groupes de soutien, des choses comme ça. Et puis par rapport à cette affiche qui pouvait être publiée par les sept grands partis de l'époque, c'est 7, hein, je suis tout à fait sûr du nombre, nous on en a créé 9. Du coup, sur les panneaux d'affichage, on avait un peu plus de place, un peu plus de lisibilité, des choses comme ça. On avait des Françoises, l'autre Françoise Otenin-Girard, qui connaissait bien des graphistes, le milieu des graphistes, on est allé chercher des copains, des graphistes, etc. etc. Et puis, avec ça, évidemment, on a inondé la ville d'affiches et il y a eu cette victoire. Et après cette victoire, je trouve que le conseil administratif de l'époque, c'est là qu'il y a eu le déclencheur. Le déclencheur, pourquoi ? Parce que à un moment donné, ils ont dit, bon, écoutez, très honnêtement, vous avez gagné, bravo, c'est bien, vous soutenez que votre projet, il coûterait 3-4 millions de moins que le nôtre, très bien, mais vous comprendrez que nous, conseil administratif, on ne va pas pouvoir gérer quelque chose que nous pensons qu'est obsolète, ingérable. Alors, on fait un deal. Le mot du conseil administratif, conseiller administratif de l'époque, je crois que c'était M. Aigui, avec M. Segond, ils ont dit, on fait un deal. On vous trouve les 9,5 millions que vous prétendez être nécessaires pour faire une restauration, mais on vous garantit de les trouver, mais vous prenez la gestion. Bigre.
Ouais, bigre.
Alors là, bigre. Puis on s'est dit, comment Et puis, on a dit, laissez-nous une semaine, 10 jours de réflexion, parce que ce n'est pas une mince affaire, cette affaire. Et là, Raymond, qui s'occupait d'un jardin d'enfants aux grottes, il a eu la présence d'esprit de demander le budget de fonctionnement des bains, c'est quoi ? C'était dans les à peu près 300 000 francs, je ne sais plus si c'était 250 000 ou 300 000, enfin c'est pas grave, mais c'était dans cet ordre d'idée-là. Il a réfléchi. Il a dit bon, ok, il a réfléchi un peu, puis il a dit finalement, c'est pas un budget énorme. Et puis là, pour faire ces nombreuses affiches avec ces nombreux groupes de soutien, évidemment, ça coûte. Une campagne d'affichage, à l'époque, c'est 7-8 000 balles.
Ouais,
où on va trouver cet argent-là? Donc, on a commencé à organiser des fêtes. Et une fête, et deux fêtes, et trois fêtes. Chaque fête, c'était 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 personnes qui arrivaient sur place. Et évidemment, on a trouvé l'argent. Alors, à un moment donné, l'histoire, c'est de dire, il y a un budget de fonctionnement qui est de temps. Nous, à travers les fêtes, on peut avoir temps. Donc, financièrement, je pense qu'on peut y arriver en créant une ou deux places ou un truc comme ça, je sais pas, puis prendre en main la chose. Et là, Raymond, il a dit, ok, même ça me semble gérable. Alors, on va à la ville, on va demander deux choses. On va leur dire oui, mais on va aussi poser nos conditions. Le budget de fonctionnement de la ville, au lieu de le garder pour vous, vous nous le donnez à nous et nous, on vous garantit le fonctionnement des bains pour le même budget. Avec une petite différence, c'est-à-dire que vous l'ouvrez 6 mois par année, donc en gros ça s'ouvrait fin mai, ça fermait en septembre, puis après les bains c'était fermé, ça devenait un no man's land avec beaucoup de chenilles, etc. Donc il passait quasiment 2 semaines de nettoyage avant de rouvrir. Puis là on s'est dit, on peut exploiter cette partie-là de l'année, les ouvrir toute l'année pour le même montant. Et autre chose, vous nous donnez la gestion de la buvette. Parce que c'est le cœur.
Eh bien sûr.
Évidemment, là, non, les gestions, c'est des fermages, c'est pas possible, c'est mis au concours, etc. Puis bon, écoutez, nous, c'est ça ou rien. Parce que si on garde la même équipe qui dépend de vous, on va avoir une sorte d'élément intérieur qui n'a rien à voir avec notre gestion. Ça ne va jamais jouer. De discussion en discussion, finalement, ils ont été d'accord. Et avant même qu'on gère les bains, Raymond a fait le coup de quartier, il a pris la buvette. Et on a commencé, en somme, à organiser peu à peu la chose dedans. Et chaque fois qu'on avait financièrement un peu besoin de quelque chose pour aller un peu plus loin, une petite fête par-ci, une petite fête par-là, etc. Et voilà, le côté festif s'est mis en place, en fait, par le besoin au départ.
Ouais, ouais.
Parce que c'est ça qui nous a permis d'aller en avant financièrement.
Et on peut dire que maintenant, donc de nouveau dans les 30 ans, mais ça fait quand même quelques années que les gens, l'hiver, viennent notamment pour les fondus au moins des baguilles, et que c'est devenu cultissime. c'est quelque chose dont on parle, mais vraiment.
Oui,
hein,
oui, ouais, bah, bien sûr. Dire,
clairement, enfin, ouais. Pour avoir même des gens qui viennent de loin et qui demandent en anglais où est-ce qu'on peut manger une fondue, eh ben, en hiver, ben, y a notamment au Bain des Paquis. Ouais. Alors dis-moi, justement, là tu as parlé évidemment de ce nerf de la guerre, hein, qui est cet argent, de la buvette que vous avez pu, que vous avez pu exploiter et du coup qui a donné ce coup de fouet. Mais comment se sont installées les différentes parties de ce Bain des Paquis? Est-ce que c'était dès le début agencé comme il l'est maintenant, ou est-ce que des choses ont été ajoutées, transformées? Raconte-nous un petit peu tout ça. Très peu.
Très, très peu. Parce que, alors là, il y a, je dirais, la troisième clé de cette histoire, c'est qu'à un moment donné, quand on a repris en main cette affaire, on s'est dit on peut se battre sur le plan social, c'est une chose, mais on va aussi se battre sur le côté architectural. Parce que ces bains, ce n'est pas dénué d'intérêt. Ça fonctionne, et ça fonctionne depuis 1800. C'est plus 60, 70, je ne me souviens plus exactement de la date, mais les premiers bains qui ont été mis en place, c'était une sorte de cabane en bois qui était sur pilotis, à peu près à l'endroit où se trouve la rotonde maintenant. Mm-hmm. Et c'était des bains réservés aux hommes.
Voilà.
Ensuite de quoi, les femmes ont dit, oui, mais nous, on pourrait aussi aller se baigner au lac. Alors bon, bah, avec les concepts de l'époque, ils ont monté une deuxième cabane séparée de la première. Et il y avait donc là, une sorte de forme architecturale qui s'est créée par rapport à un besoin. Et quand ces bains en bois sont devenus obsolètes, ils ont été reconstruits en 1931 de manière très rationnelle, parce qu'il fallait faire vite, bon marché, en respectant le principe. Donc, un côté homme, un côté femme, on met une buvette au milieu qui s'ouvre d'un côté et qui s'ouvre de l'autre, il n'y avait pas de passage possible entre les deux, et puis on ouvre la plage pour les familles. Comme ça, tout était clair, et plus pour les sportifs, le polo. Donc, c'était organique, ça répondait à un besoin. Nous, on ne s'est pas creusé la tête, on s'est dit, mais non de Dieu, ça fait 30 ans, 40 ans que ça fonctionne à merveille comme ça. Aujourd'hui, si ça fonctionne moins bien, c'est parce que, bah oui, c'est un peu obsolète, il y a l'attrait des piscines, mais il faut remettre en route un peu cet attrait pour le lac. Alors, la rentre, le concept architectural, on s'est dit, on respecte exactement la forme, les éléments, la simplicité, parce que plus c'est simple, moins ça coûte à l'entretien. Mm-hmm. Et puis, toutes les parties cabines qui étaient à l'intérieur, elles étaient complètement construites pour des entrepôts, je sais pas, il y avait le sauvetage qui avait son matériel, il y avait la buvette qui avait son matériel, il y avait les bains qui rangeaient son matériel, etc. Mais c'était complètement fermé jusque devant les bassins, c'est-à-dire il y avait juste un mur avec des patères. Et là, puisque dans le groupe, on était deux, trois architectes aussi, on s'est dit, l'idée, ça serait de revenir à l'image qu'on voyait des années 30 avec tout le couvert ouvert. Et on s'est dit, d'abord, il y a le soleil, parce qu'aujourd'hui, le soleil, on l'aime plus comme dans les années 50. Aujourd'hui, le soleil, il faut commencer à faire attention, donc de créer de l'ombre. Hein. Et c'est un espace vide qui nous permettra, au fur et à mesure du temps, d'organiser des choses. Puis là, a débuté l'utopie. Des trucs genre, comment on appelle ça, balnéothérapie, ou je sais plus.
Oui, balnéothérapie, oui.
Des massages, des trucs comme on le faisait à l'ancienne. Bon, ben, alors là, on était l'utopie complète. On est parti, puis on a vu que ce lieu, effectivement, tout doucement, il faisait mauvais, on voulait organiser un petit truc, on le faisait là-dessous, etc. Et puis, c'est de là qu'on s'est dit, mais cet espace, il est hyper précieux. Et c'est cet espace-là qui est très prisé en été, qu'on pourrait utiliser en hiver pour faire quelque chose. Alors, la première idée, ça a été le sauna. Le sauna, la main des bains, donc les mains des bains qui sont venues s'adjoindre à ça, donc les massages, la salle de repos. Après, ça s'est un peu amélioré avec le hammam, le bain turc, etc. Puis, évidemment, de plus en plus de monde. Donc, à un moment donné, on ne sait plus où les mettre parce que non, la terrasse de la buvette, elle est microscopique quelque part. Donc, peu à peu, ben, en hiver, comme il y a moins de monde, on pourrait commencer à servir quelques tables, mettre quelques tables là-bas dessous, ça ira bien. Mais évidemment, le climat nous empêche de faire certaines choses à certains moments. Et quand on avait fini le chantier, on avait fait une grande fête pour tous les ouvriers, tous les gens qui avaient participé au chantier, etc. Évidemment, c'était une période où il ne faisait pas très beau non plus. On s'est dit, on le ferme avec des plastiques, puis comme ça, quoi qu'il arrive, il pleut, il vente, on met deux, trois chauffages de chantier là-dedans, on fait une fête d'enfer là-bas dessous, point barre. Et tout doucement est né, en fait, on pourrait, à certaines périodes, pourquoi pas, commencer à servir quelque chose aussi en hiver là, pour faire vivre ces bains 365 jours par 365. Mmh. Et voilà, tout doucement, les petites idées se sont montées. Puis comme on le sait, on monte un truc, ça amène une autre, il y a des gens qui arrivent. Alors évidemment, on a eu le privilège d'avoir beaucoup d'artistes qui sont venus... par ici, manger là, puis d'un coup nous demander, bon, je pourrais pas faire une exposition, je pourrais pas faire un truc. Et très vite, on s'est rendu compte que ça pouvait être un lieu exceptionnel pour des concerts, des expositions, des discussions, des domaines extrêmement larges. Et ben, tout doucement, donc dans l'association, on a créé d'ailleurs assez vite un groupe culture pour s'occuper de tout ce qui est animation pour être le petit plus. Pas seulement manger et se baigner, mais d'avoir aussi le plaisir d'écouter de la musique, de voir un film. Ça avait commencé aussi avec les championnats de foot. Parce que quand il y avait les mondiaux de foot, évidemment, on a loué un écran, on a mis l'écran là-bas dessous. C'était une histoire mais hallucinante. Puis c'était génial. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était très drôle parce qu'à un moment donné, on s'est... Ouais, on parie, qui c'est les trois premiers, patati patata, puis on a fait une chose qu'on aurait peut-être, un peu illicite, mais on s'en fout, il y a prescription,
exactement.
On a fait des paris.
Très bien. Alors ça s'est passé quoi ?
Il y a eu pas mal de paris, et on avait gardé l'argent dans la caisse du coffre, et on s'est fait piquer le coffre.
C'est pas vrai.
Une nuit, ils sont venus, curieusement. Voilà.
Mais voilà. Concernant justement les...
Ils ont ouvert la porte, ils ont démonté le coffre du mur, ils sont partis avec un bateau avec le coffre.
Mais non.
Alors évidemment, on était un peu emmerdés parce que pour dire qu'on s'était fait piquer l'argent, mais que c'était de l'argent de Paris.
Oui, c'est ça.
On était un peu dans la mouise là.
Mais d'ailleurs, justement, toi, comment tu observes les attitudes ? Est-ce qu'il y a des problèmes justement des fois avec ce monde qui circule, qui va avec le va-et-vient ? Est-ce qu'il y a des moments un petit peu délicats, compliqués, de tension, ou en fait pas du tout ?
Oui, il y a eu, il y a toujours eu. Il y a eu effectivement les dealers, c'est une chose. Il y a eu l'alcool qui était un gros problème. On avait quand même une équipe à 11h, ils étaient, on les appelait les casquettes Cinard.
Ah ouais, carrément.
Les joueurs de cartes au Cinard, pastis, un peu avant midi, ils étaient déjà bien cuits. Ouais. Et puis évidemment, les gens avec qui on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas, pas à avoir un contact correct, interdit l'alcool avant midi, et puis l'observation très stricte des gens qui venaient dealer sur place. Ouais. On a lu quelques histoires, mais on a tenté toujours de gérer ce genre de choses. Des fois, on a dû faire appel aussi à la police, malgré tout, pour nous aider, parce que c'est pas notre... ça peut même être dangereux.
Bien sûr.
Et voilà. Alors, des frottements, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à régler, mais toujours... avec compréhension, avec beaucoup d'idées,
avec
toujours
des suggestions.
C'était pas non, mais c'était toujours avec quelque chose à la place.
Ouais, je comprends.
Et je crois que c'est cette attitude de toujours venir par rapport à un problème avec une solution qui fait qu'il y a plein de choses qui se sont montées. Occuper le lieu. Parce qu'en gros, c'est ça. On occupe un lieu. Si on l'occupe, il ne se passe rien de grave.
Exactement.
C'est quand on ne l'occupe pas que les problèmes commencent.
Merde, ouais, tout à fait. Dis-moi, je vais pas. Bon, on en est à une demi-heure d'interview. Je ne veux pas te voler ton temps. Donc, c'est toi qui me diras au moment.
Non, il n'y a pas de souci.
J'aurai en tout cas une ou deux autres questions. Une concernant justement l'association des usagers des bains des Paquis. La manière dont, effectivement, maintenant, tout ceci est géré. Parce que, comme tu l'as dit, le succès est au rendez-vous, clairement. C'est énorme le nombre de personnes qu'il y a là, donc j'imagine que la gestion du coût doit être adaptée à ça. Et, et j'imagine également que c'est une gestion le plus horizontale possible qui inclut justement ces usagères et ces usagers. Alors, si tu voulais nous en dire quelques mots de la manière dont ceci fonctionne concernant l'AUBP.
Très simplement, donc il y a un comité de gestion avec différents groupes qui s'occupent des questions financières, des projets culturels, évidemment du personnel, de l'entretien des bâtiments, des relations avec la buvette, des relations avec l'extérieur, etc. Chacun comme ça est ciblé sur un domaine selon ses compétences. Parce que je crois que le succès de la UBP, c'est aussi que dans ce comité très pluridisciplinaire, chacun y trouvait un petit peu sa place par rapport à son savoir. Mettre en pratique son savoir. Et évidemment, le personnel, ça a été toujours le gros truc. Quelle gestion adopter ? la complètement horizontale, on l'a faite une fois, puis au bout de 4-5 ans, ça n'a plus très bien joué, on est revenu à quelque chose d'un peu plus vertical. Je crois que tous les 5 ans, on a essayé un type de gestion, je crois que... On n'a peut-être pas encore trouvé l'idéal, mais la question, c'est qu'on est parti avec quelques employés. Je crois qu'à l'époque, les Bains des Papis, c'était une dizaine ou une douzaine de personnes au grand max. Mm-hmm. Et puis, avec Ouvert toute l'année, Le Monde, etc., de 12 personnes, on est arrivé à plus de 60 emplois.
Actuellement, il y a plus de 60 emplois.
Grosso modo, et peut-être même un peu plus. D'accord. Si on prend les auxiliaires d'été, etc. etc. Et ben, ça... ça demande une gestion très fine, très complexe, et c'est là qu'on a dû chercher des ressources par rapport à qu'est-ce que c'est une gestion du personnel, comment on peut gérer du personnel, surtout dans des conditions difficiles, parce qu'on ne travaille pas dans des conditions extrêmement faciles. Il y a des gens qui doivent venir le matin à 4 heures pour essayer de nettoyer ce qui s'est mal passé durant la nuit. Les débris de... On ne peut pas imaginer cette plage avec des débris de verre le matin sur la plage.
Il y a des familles,
donc il y a
enfants,
des gars qui venaient nettoyer dès 4h30, 5h le matin, au lever du jour, avec les premières équipes qui venaient en place pour que tout soit nickel quand les premiers baigneurs arrivent, etc. Ça, c'est une gestion assez complexe. Et c'est là où on a, pendant 20 ans, on a cherché différents types, directeur, pas directeur, horizontalité, pas d'horizontalité. Et le directeur, évidemment, le directeur, c'est quelque chose de clé. Alors après, tout dépend évidemment de la personnalité du directeur pour que ça marche ou que ça ne marche pas dans un lieu aussi particulier. Mmh. Aujourd'hui, on travaille un peu plus sur l'horizontalité, donc avec des responsabilités qui sont réparties entre les gens. Ça a l'air d'assez bien fonctionner maintenant, mais bon, c'est comme toujours, ces groupes de travail, je crois tous les 4 ans, 5 ans, faut repenser la chose,
exactement.
Parce que les automatismes arrivent et tout, puis on part vite à la dégringolade.
Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire quand même que les relations justement avec la ville et avec le canton, avec les institutions en général, se sont-elles normalisées, se sont-elles apaisées ?
Absolument. Alors, ça a été la guerre. Même après, on a eu, le service d'hygiène qui débarquait tous les 15 jours dans la buvette. On a dû lutter pas mal. Puis après, le succès faisant, peu à peu, les gens ont trouvé la chose exceptionnelle, la rage... s'étant un peu dissoute dans certaines choses. Pour finir, je crois que maintenant tout le monde est d'accord pour dire que c'était une magnifique aventure. Mais il a fallu du temps.
Effectivement. Hygiène et sécurité, c'est vrai que ça doit être, j'imagine, parmi les arguments délicats. Et est-ce que ça, effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, on a trouvé aussi là également une vitesse de croisière et que tout cela est géré de la manière la plus optimale possible.
Oui, ils sont hyper compétents. Ouais. C'est très particulier. On est parti de rien, on est allé voir comment ça se passait ailleurs, on s'est renseigné, les piscines, les autres plages, comment ça marchait, etc. Responsabiliser les gens, etc. Et heureusement, finalement, par rapport aux millions de personnes qui ont défilé ici depuis 30 ans, on a eu que très très peu d'accidents à déplorer.
Et la plupart des incidents mineurs. Parce que c'est vrai que quand on regarde, là, nous sommes face à la plage, il y a le petit radeau, il y a des enfants partout, tout le monde se baigne. Comme ça, on dirait que c'est extrêmement... Il y a le mur de grimpe dans l'eau. On se dirait, mais il y a certainement des accidents qui doivent se produire tout le temps. Et en fait, non. En fait, ça se passe bien.
Ça se passe relativement. L'équipe de gardiens, ils ont l'air de rien. Mais
ils sont bien
là. Ils sont
là,
en
voilà.
liaison entre eux.
Exactement.
Il y en a un qui circule là-bas, il y en a un là-bas. Ils ont les yeux sur tout. C'est très, très prenant parce que... un accident, il arrive extrêmement vite.
Eh oui.
On a eu une ou deux personnes qui se sont malheureusement perdu la vie ici. C'était des conditions très particulières. C'est arrivé durant la nuit, donc on n'avait rien à faire. Il est tombé d'un toit, je crois. Et puis l'autre, malheureusement, ça a été ce qu'on appelle se baigner après le coup de chaud, après manger, dans un endroit où ils l'ont vu tout de suite, mais ils ne l'ont pas trouvé tout de suite. Parce que malheureusement, c'était une personne à la peau noire. Et dans les algues, il y a eu les 30 secondes fatales. On n'a pas pu, mais je crois qu'en 30 ans, c'est le seul accident qu'on a eu à déplorer.
D'accord. Camille, une question.
Pardon, c'était une question un peu toute bête. C'était pour revenir. Et pendant un moment, il y a une nouvelle loi, la nouvelle MRDBH, qui est passée et qui a embêté un peu des structures associatives qui faisaient à la fois buvette et à la fois activité culturelle. Est-ce que vous avez eu des soucis avec cette nouvelle loi-là?
Alors, Pour les bains, je ne peux pas y répondre parce que je me suis occupé d'autres activités dans le quartier des Grottes. Donc les bains, j'ai quitté le comité il y a quelques temps. Donc le moment où cette loi est arrivée, je n'ai pas vécu ça ici. Je ne sais pas comment ils se sont organisés.
Okay,
j'imagine qu'ils ont dû s'organiser en conséquence. Mais bon, alors là, c'est extraordinaire parce que c'est vrai que maintenant, avec ce qui se passe ici, les responsabilités qu'on a prises, les réponses qu'on a pu donner, etc. En général, on arrive à régler les problèmes relativement facilement.
Très bien. On va quand même, parce qu'on ne l'a pas encore fait, citer le site du Bain des Paquis. Le site internet, c'est www.baindespaquis, séparé par des traits d'union, bains-d-paquis.ch, où on retrouve effectivement toutes les activités extrêmement variées. Que ce soit des activités de bien-être, comme tu l'as dit, le hammam, les massages, tout ça, des activités disons plus culturelles, comme des projections ce soir, des concerts, il y a vraiment une multitude de choses, des expositions, il y a énormément de choses qui se font ici, même quelques petits festivals également. Tout ça, on retrouve le programme, les contacts, tout ce qu'il faut, les infos pratiques sur le site internet. On va arriver doucement à la fin de l'entretien. S'il y a des questions parmi nous, on peut y aller maintenant. Et vas-y, Camille.
Excusez-moi, une petite rapide. Moi, je ne sais pas malheureusement si vous en avez déjà parlé, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour le journal Les Bains, que je trouve très beau, avec de très belles illustrations, et je trouve ça très chouette que vous fassiez ça. Ça existe depuis quand? Qui s'en occupe? Comment est-ce qu'on publie sur ce journal?
Alors oui, ça c'est quelque chose qui est né il y a plusieurs années. Dans l'équipe, il y a des photographes, il y a des journalistes, on a beaucoup de contacts avec des gens dans les milieux artistiques. Et à un moment donné, est née l'idée d'un journal qu'on pourrait faire, puisque la question de la formation, elle n'avait pas encore bien résolue. Et à un moment donné, on s'est dit, ouais, l'Internet, puis ouais, bon, les bains, l'Internet, à l'époque, je ne sais pas si c'est un truc qui est vraiment dans notre mouvance, peut-être on va trouver un autre moyen. Et il y avait cette idée de journal qui était toujours restée un peu là. Et puis finalement, il y a une équipe qui s'est mise en place, qui a décidé de faire une publication sous forme d'un journal qui un petit peu d'informations, mais beaucoup d'éléments culturels, de gens, le ressenti, la photo, l'image, le dessin, la poésie, les écrits, etc. Alors là, bon, il faudra une fois aller interroger l'équipe du journal parce qu'ils sont, ils sont super bien. C'est qu'il faut voir avec Françoise Nideguer, notamment, qui est journaliste, qui est, je crois, l'une des chevilles ouvrières de cette publication, qui était d'abord un peu coûteuse, puis finalement, c'est devenu un journal gratuit.
Et oui.
Voilà.
On salue également les personnes qui se sont occupées des aubes musicales. Parce que là aussi, c'est fantastique hein, de voir le soleil se lever en musique. Et on les avait reçus il y a cela 2 ans, je crois. Mais je crois que cette année, ça a été suspendu pour un temps. Hein.
Voilà. Il y avait d'autres événements. Mmh. On ne pouvait pas tout faire en même temps.
Ouais. Il y a des fanfares maintenant le matin cet été.
Oui, quelques-unes. Ouais.
Bon, en tout cas, on reviendra là-dessus parce que c'est certainement un projet qui va rebondir. Enfin, on verra de quoi sera fait.
On verra. L'avenir. Et en même temps, c'est bien. Je crois qu'il y a des choses, il faut les arrêter et puis recommencer autre chose. Parce que sinon, voilà, c'est le train-train et puis on gère le train-train. Puis nous, je crois, gérer le train-train,
c'est pas le truc. Hein, ouais.
C'est, voilà.
Bah oui.
C'est pas comme ça qu'on met en marche une dynamique.
C'est clair. Alors, cette question, c'était pour arriver à la toute dernière des questions pour aujourd'hui. Selon toi, quelles aspirations peut-on, si on était au Bain des Paquis, si on faisait partie de l'association des usagers, quelles seraient les aspirations auxquelles on pourrait songer, quels seraient les prochains défis à relever par le Bain des Paquis, comment est-ce qu'on verrait la suite des opérations ici au Bain des Paquis? Est-ce que toi, tu as une vision comme ça, un espoir
Ça, c'est une question très compliquée parce que, quelque part, on a sauvé ces bains parce que c'était un lieu paisible, un lieu de poésie où on pouvait venir un peu rêver, lire, dessiner, causer, tranquille, etc. Puis bon, le succès étant, les fêtes, etc., etc. Puis maintenant, on arrive à quelque chose, on va dire, presque un peu saturé. Alors, est-ce qu'il faut continuer à imaginer des choses ou est-ce qu'il faut réfléchir à l'entité, à la... Comment dire la, qu'est-ce que c'est ce lieu? Est-ce qu'il faut encore en faire quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt maintenant essayer de penser à retrouver ce calme qu'on avait avant? Bon, dans un premier temps, on va dire non, économiquement, c'est plus possible. On a des employés, des gens, on ne peut pas non plus tout d'un coup couper un peu la chose. Mais c'est peut-être de gérer ce succès.
Exactement.
de manière à ne pas perdre cette utopie, qu'elle demeure avec ses manques, avec ses subtilités, avec ses petites choses qu'on découvre un peu en dehors des heures.
Une forme de décroissance, on pourrait dire. Mais tout en, évidemment, ouais, pour conserver justement cet esprit...
Une croissance intelligente.
Une croissance intelligente. C'est bien.
Voilà.
C'est bien. Bon, écoute, ce sera pour aujourd'hui le mot de la conclusion, parce qu'effectivement, nous allons encore faire un petit peu de radio ici. Et le temps passe plus vite à chaque fois qu'on ne le pense à la radio. Et oui. Alors, Jean-Pierre Balmer, je te remercie beaucoup. Donc, tu fais partie de l'équipe des membres fondateurs des Débats des Paquis. Ça, c'est une de tes casquettes, hein, parce que tu en as de nombreuses. On en reparlera certainement, on aura l'occasion d'en reparler à un autre moment, mais nous on tenait à être là puis à marquer le coup depuis le bain des Paquis en compagnie de toutes ces personnes qui se baladent ici, et c'est toujours un plaisir de parler avec toi en tout cas, je te remercie beaucoup.
C'est super, et puis toujours un énorme plaisir de penser à ce succès, quoi.
C'est clair, ouais.
C'est génial, c'est magnifique.
C'est un beau succès humain.
Et là, je pense qu'il faut remercier vraiment tous les bénévoles, et c'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas 30, c'est, je pense, on peut dire plus de 100, 150 personnes. Si on fait depuis le début, c'est peut-être 250 personnes qui bénévolement ont donné leur temps, leurs idées, leurs suggestions, etc. Comme ça, bam! Et ça, dans une ville comme la nôtre, c'est magnifique.
C'est clair. Ben voilà, c'est une belle note d'espoir, d'humanisme, et de se dire que voilà, on peut ensemble changer les choses très concrètement, ben ça se fait au paquet.
Possible.
Merci.
C'est possible.
Merci Jean-Pierre, à la prochaine en tout cas. Bon après-midi à toi.
Ciao.
Alors, une toute petite pause musicale, et puis on appelle Philippe du CIRA de Marseille, avec lequel nous allons nous entretenir. C'est parti.